Vous écoutez RFI, la radio du monde. Il est 21h en temps universel et à Nouadhibou, la ville de Bérémix, qui était notre invité, 23h à Paris. Et le journal est présenté par Antoine Galen. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Claudie, bonsoir à tous. À la une, les manifestants de retour dans les rues de Los Angeles pour dire non à la politique migratoire de Donald Trump. Les affrontements durent depuis vendredi et la tension monte d'un cran après le déploiement de l'armée ce dimanche par le président américain. Les pays de l'OTAN appelés à augmenter leurs dépenses militaires à hauteur de 5% de leur PIB. C'est l'appel lancé par le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, vous l'entendrez. Dans ce journal également, le président argentin Javier Milei en visite en Europe. Et puis à l'occasion de l'ouverture de la troisième conférence de l'ONU sur les océans à Nice, la Biennale des Arts de Nice propose un rendez-vous artistique axé sur les océans. Donald Trump met de l'huile sur le feu. Le président américain estime que ce serait super d'arrêter le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom. Lui qui s'est fermement opposé au déploiement de l'armée à Los Angeles. La cité des anges secouée par une troisième nuit de heurts. Une soixantaine de personnes ont été arrêtées ce dimanche, d'après la police locale. Des affrontements qui ont lieu depuis vendredi contre la politique migratoire de Donald Trump. Et cela n'a pas plu au président américain qui a donc décidé de déployer 2000 membres de la garde nationale, une décision qui a fait monter d'un cran la tension entre l'administration Trump et les démocrates. Oriane Verdier.
Le gouverneur de Californie et la maire de Los Angeles sont des incompétents. L'une des nombreuses tirades de Donald Trump sur son réseau social où il a annoncé l'envoi de la garde nationale. Le gouverneur démocrate de Californie n'a pas été consulté et il dénonce une décision délibérément incendiaire. La maire de Los Angeles, Karen Bass, fait front à ses côtés et tient Donald Trump pour responsable du chaos actuel.
What we're seeing in LA is chaos.
Ce que nous voyons à Los Angeles, c'est le chaos provoqué par l'administration. Le déploiement de troupes fédérales est une escalade dangereuse. Mais il faut être réaliste, il s'agit d'un autre agenda, il ne s'agit pas de la sécurité publique. Il est clair qu'il n'y a pas de plan, qu'il n'y a pas de politique.
Mais la levée de boucliers démocrates dépasse les frontières de la Californie. Prendre une telle décision sans y être invité par le gouverneur rompt avec les traditions et ça ne va faire qu'empirer la situation, a par exemple estimé sur NBC News le sénateur démocrate du New Jersey, Cory Booker. Le gouverneur californien a appelé les manifestants à rester calmes et à ne pas mordre à l'hameçon de Donald Trump.
Réaction également de la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. Elle demande le respect et la dignité humaine et l'état de droit, tandis que 42 Mexicains ont été arrêtés lors des opérations musclées de la police fédérale américaine. Claudia Sheinbaum a également condamné la violence, quelle que soit son origine. Ce lundi, de nombreux manifestants sont encore dans les rues de Los Angeles. Au Proche-Orient, le voilier Madeleine est arrivé dans la soirée au port israélien d'Ashdod. Le navire a été arraisonné par Israël lundi matin alors qu'il tentait de rallier la bande de Gaza avec de l'aide humanitaire. Il comptait également 12 militants pro-palestiniens à son bord, dont la Suédoise Greta Thunberg et la députée de la France Insoumise Rima Hassan. Emmanuel Macron déclare avoir passé tous les messages pour que la protection des 6 ressortissants français soit assurée et qu'ils retrouvent le sol français. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce lundi soir en France en soutien à l'équipage. C'est l'un des rares résultats des récents pourparlers entre l'Ukraine et la Russie. Un nouvel échange de prisonniers va avoir lieu. Pas d'indication sur le nombre de soldats concernés, mais cet échange se déroulera dans les prochains jours. Un échange qui avait été décidé au cours d'un deuxième cycle de négociations directes à Istanbul le 2 juin dernier. Moscou et Kiev avaient convenu de libérer tous les prisonniers de guerre grièvement blessés et ceux âgés de moins de 25 ans. Le danger ne disparaîtra pas, même avec la fin de la guerre en Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, appelle les pays de l'Alliance Atlantique à augmenter progressivement à 5% de leur PIB leurs dépenses militaires. Déclaration à Londres ce lundi, une semaine après son passage à Paris. De son côté, le chef d'État russe, Vladimir Poutine, accuse l'OTAN d'être un instrument d'agression et de confrontation. On écoute Mark Rutte.
Le président Poutine n'agit pas comme quelqu'un qui est intéressé par la paix. La Russie continue de cibler les civils en Ukraine jour après jour, nuit après nuit. C'est de la violence pour la violence. Nous soutenons pleinement les efforts du président Trump pour arrêter ce bain de sang. La population ukrainienne mérite d'obtenir une paix juste et durable. Les soutiens pratiques et politiques de l'OTAN à l'Ukraine continuent. Notre soutien sur le long terme n'est pas un soutien pour continuer la guerre. Il s'agit d'aider l'Ukraine à se défendre aujourd'hui et prévenir toute agression future. L'OTAN est avec l'Ukraine aujourd'hui et pour les défis à venir.
Et de son côté, le Canada annonce consacrer 2% de son PIB à la défense. 16h05 à Bogota, le dispositif de sécurité du candidat Miguel Uribe, blessé par balle, a été étrangement réduit, selon le président colombien Gustavo Petro. Le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie ajoute avoir demandé lors d'un conseil de sécurité la plus grande rigueur dans l'enquête sur cet événement. Miguel Uribe, sénateur de droite et prétendant à la présidence en vue des élections de mai 2026, a été touché par 2 balles à la tête et 1 au genou alors qu'il était en meeting dans la capitale ce samedi. Il est toujours en soins intensifs. Le président argentin en visite en Europe après son passage en Italie et en Espagne, Javier Milei, était ce lundi à Nice, dans le sud de la France. Une présence en marge du sommet des océans où il a rencontré le président français Emmanuel Macron avant de s'envoler pour Israël. Au pouvoir depuis 1 an et demi, le président argentin s'est déjà rendu à plusieurs reprises dans ces pays. Marine de la Moussonnière.
Javier Milei est surtout venu voir ses alliés hier en clôture d'un forum économique à Madrid devant un auditoire acquis à la cause ultralibérale. Il a mis en avant ses succès, baisse de l'inflation, relance de la croissance. Un discours largement applaudi au cours duquel il s'en est à nouveau pris au premier ministre socialiste Pedro Sanchez qu'il a qualifié de voyou. Même accueil chaleureux la semaine dernière en Italie de la part de Giorgia Meloni, la compagnie pétrolière publique argentine PFE et l'entreprise italienne Eni en ont profité pour signer un accord d'exportation de gaz provenant du gisement de Vaca Muerta. Enfin, en Israël, Javier Milei redira son soutien inconditionnel à Benjamin Netanyahou. Pour le reste, le président argentin est venu cultiver sa stature à l'international, rencontre avec Emmanuel Macron ou bien encore avec le pape Léon XIV qui lui a parlé de lutte contre la pauvreté et de cohésion sociale, alors qu'en Argentine, sa politique de coupe drastique dans les dépenses publiques a entraîné une hausse du chômage et une baisse du pouvoir d'achat.
Et Javier Milei n'était pas le seul à Nice. Plus de 60 dirigeants du monde entier se sont rendus en Côte d'Azur pour cette 3e conférence de l'ONU sur les océans. Elle s'est ouverte ce lundi et doit durer 5 jours. Cette conférence doit déboucher sur des engagements concrets d'État pour protéger les océans. Alors dans ce contexte, la Biennale des Arts de Nice est axée cette année sur les océans. Et la grande nouveauté de cette édition, c'est le parcours d'œuvres d'art dans l'espace public. Lisa Giroldoni.
Pour la première fois, la Biennale des Arts sort des musées pour habiter les rues de la ville, faisant de Nice un musée à ciel ouvert. De la promenade des Anglais à la tour Bellanda, en passant par la coulée verte, les œuvres d'art s'intègrent parfaitement au paysage niçois. L'artiste Laure Prouveau expose une immense sculpture en bronze de son animal totem, une pieuvre, sortie d'un monde sous-marin pour apparaître sur la pelouse du centre-ville.
Cette pieuvre, elle a voyagé, elle a plein de petits éléments, elle accueille un petit bassin pour les oiseaux, propose de vivre ensemble et de devenir pieuvre aussi. Les enfants, j'espère, rentreront, se cacheront, deviendront le cerveau d'une pieuvre.
Plus loin, sur les anciennes murailles de la vieille ville, on peut lire « Songez la vague sur un horizon, une promesse ». Une poésie exposée face à la mer de l'artiste malgache Joël Andriano Meharizoa.
Je propose qu'on songe effectivement à une nouvelle poésie de l'horizon. C'est une pièce française qui est à Nice, mais qui en tous les cas qui nous transporte ailleurs, sur une vague, pour qu'on essaie d'imaginer, ou en tous les cas de songer à une autre poésie, à un autre rapport aux choses.
4 autres œuvres composent ce parcours dans l'espace public, écho artistique des grands enjeux débattus à la conférence des Nations Unies sur l'océan.
Lisa Giroldini, puis c'était un pionnier du funk. Sly Stone est décédé à l'âge de 82 ans. L'artiste avait notamment donné un concert mémorable avec son groupe lors du festival de Woodstock en août 1969. La vie de ce musicien révolutionnaire à retrouver sur notre site internet RFI. RFI.fr, RFI bientôt 23h10, ici à Paris, 21h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.